VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 26 décembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia pour commencer les titres. Plus de 160 personnes tuées dans des attaques dans le centre du Nigeria. En RDC, des résultats très partiels de la présidentielle donnent le président sortant Félix Tshisekedi largement en tête. Les États-Unis disent avoir frappé des sites pro-iraniens en Irak. L'OMS s'alarme du nombre de patients affamés dans les hôpitaux de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut lui intensifier les combats dans le territoire. Ne manquez pas la Minute Éco, notre page sport, ainsi que nos dossiers du jour. Pour l'instant, le journal. Au moins 113 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et hier lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria, selon les autorités locales. Le point avec Jacques Aristide.
Les hostilités déclenchées durant le week-end écoulé se poursuivaient hier. D'après Mandé Kassa, le président du conseil du gouvernement de Bokkos, une circonscription située dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Il ajoute que plus de 300 personnes blessées ont été transférées dans les hôpitaux de Bokkos, de Jos et de Barkin Ladi. Des groupes armés, localement qualifiés de bandits, ont attaqué pas moins de 20 villages entre samedi soir et lundi matin. Précise Mandé Kassa, avant de dire que les attaques ont été bien coordonnées. Caleb Mufwang, le gouverneur de l'État du Plateau, a qualifié cette action armée de barbare, brutale et injustifiée. Des mesures proactives seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre des citoyens innocents, a déclaré Guillaume Béré, le porte-parole du gouverneur. Pour l'ONG Amnesty International, les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leur tentative de mettre un terme à ces fréquentes attaques dans l'État du Plateau.
L'État du Plateau, où plus de 160 personnes donc ont été tuées dans des attaques dans le centre du Nigeria. En RDC, la commission électorale CENI a continué hier à diffuser des résultats encore très partiels de la présidentielle des 20-21 décembre, qui place très largement en tête avec un score de 81,4% le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis début 2019 et candidat à un second mandat de 5 ans. Les résultats annoncés jusqu'à présent portent sur 1 876 827 votants sur un total de près de 44 millions d'électeurs inscrits dans l'immense pays d'environ 100 millions d'habitants. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Après le président Tshisekedi, suivent l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 15,18%, et Martin Fayoulou, 1,2%, selon les mêmes résultats partiels. La vingtaine d'autres candidats qui étaient sur les rangs, notamment le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, n'atteignent pas 1%. La CENI n'a pas établi le taux de participation, mais décidé de diffuser progressivement depuis vendredi les résultats de la présidentielle organisée en même temps que les législatives provinciales et locales pour lesquelles les résultats seront publiés plus tard. Le quadruple scrutin était prévu sur une journée, le 20, mais il a été prolongé en raison de multiples problèmes logistiques officiellement d'une journée, mais jusqu'à Noël dans certaines zones reculées. Les candidats de l'opposition ont dénoncé dès le premier jour le chaos et les irrégularités ayant selon eux entaché le vote. Certains prévoient une manifestation pour mercredi prochain, d'autres demandent l'annulation pure et simple des élections, en plus de la suspicion des opposants depuis le début du processus électoral. La campagne a été empoisonnée par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui connaît un pic de tension depuis 2 ans avec la résurgence de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda qui dément.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée américaine a procédé à des frappes nécessaires et proportionnées sur 3 installations utilisées par le Kataïb Hezbollah et des groupes affiliés en Irak, a déclaré le secrétaire à la défense Lloyd Austin dans un communiqué. Ces frappes sont une réponse à une série d'attaques contre des personnels américains en Irak et en Syrie, menées par des milices soutenues par l'Iran, dont celle du Kataïb Hezbollah, affilié à l'Iran, et des groupes affiliés contre la base aérienne d'Erbil, plus tôt dans la journée, a-t-il souligné. Ce genre d'attaques se sont multipliées en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, suite à l'attaque sanglante sans précédent lancée par le Hamas le 7 octobre contre l'État hébreu. L'attaque d'Erbil a blessé 3 personnels américains, dont un grièvement, a indiqué une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée du nombre de patients affamés que ses équipes ont rencontrés dans plusieurs hôpitaux de Gaza au cours du week-end de Nathalie Barge.
Samedi, une mission dirigée par l'OMS s'est rendue dans des hôpitaux de la ville de Gaza, permettant notamment la livraison de plus de 19 000 litres de fioul à l'hôpital Al-Shifa, a annoncé dimanche soir le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dans ce contexte de grave pénurie alimentaire, la quête de nourriture pousse certains, désespérés, à prendre de la nourriture des camions de livraison, a constaté M. Tedros, rapportant que des habitants s'étaient emparés d'aide alimentaire à bord d'un camion qui faisait route vers l'hôpital. Le chef de l'OMS a plaidé pour une augmentation immédiate de l'acheminement de la nourriture et de l'eau, soulignant que l'hôpital ne peut fournir en l'état que des premiers soins les plus basiques. Un membre de la mission de l'OMS a mis en garde contre un risque de famine, soulignant que toutes les personnes rencontrées ont dit avoir faim. Il a décrit des services de chirurgie surchargés, précisant qu'ils n'avaient pas pu évaluer le fonctionnement des blocs opératoires car les portes leur sont restées fermées. Les équipes de l'OMS ont également visité les maternités Al-Shaba et Al-Elou, qui enregistrent jusqu'à 35 naissances par jour, dans des conditions de pénurie de nourriture, d'eau, d'oxygène, d'antibiotiques, de produits anesthésiants, ainsi que de carburant pour faire tourner les générateurs.
Le pape François a exprimé sa tristesse devant le contraste des célébrations de Noël à Bethléem, ternies par le fracas des armes à Gaza. Pendant ce temps, les Ukrainiens fêtent pour la première fois Noël le 25 décembre, s'alignant sur l'Occident et défiant la Russie. Eric Manerakidza.
Le souverain pontife s'est montré inquiet face aux festivités de Noël à Bethléem, marquées par les bruits des armes à Gaza. Dans son appel, il a fait référence à Jésus-Christ en tant que prince de la paix, souhaitant voir la cessation des activités militaires. Il a lancé un appel à l'assistance humanitaire dans différents conflits à travers le monde. Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ selon la tradition, a vu ses célébrations annulées cette année en raison des combats à Gaza. Des œuvres artistiques symboliques évoquant le drame de Gaza ont remplacé les décors de Noël habituels, laissant les habitants dans la peine face aux pertes continues. Parallèlement, en Ukraine, les fidèles orthodoxes ont fêté Noël le 25 décembre pour la première fois, marquant ainsi leur alignement avec le monde occidental et défiant la Russie. Le président Zelensky a exprimé ses prières pour la fin de la guerre et la justice dans son pays. Cette synchronisation des célébrations de Noël avec le monde occidental représente un pas significatif dans l'histoire de l'Ukraine, marqué par un changement de calendrier pour se démarquer de la Russie et renforcer son indépendance. Par ailleurs, malgré le contexte international sombre, le Père Noël a entamé sa tournée annuelle distribuant des cadeaux dans le monde entier, notamment dans les zones touchées par les conflits, sous la surveillance du commandement de la défense aérospatiale nord-américain, NORAD.
Pour revenir sur Gaza, des dizaines de Palestiniens ont été tués depuis dimanche dans des frappes israéliennes massives, malgré les appels croissants à un cessez-le-feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l'ONU et les ONG. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste inflexible. Nous n'arrêtons pas, nous intensifions les combats dans les jours à venir. Ce sera une longue guerre, a-t-il martelé lundi. La Minute Éco, Jacques Aristide.
Le Congo-Brazzaville réaffirme son engagement vers l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, après que son voisin angolais a récemment décidé de se retirer du bloc sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière. Bruno Jean-Richard Itoua, le ministre des hydrocarbures de la République du Congo, déclare que son pays, qui soutient la politique stratégique définie par l'OPEP et l'OPEP+, va poursuivre sa collaboration avec tous les pays membres. En Guinée, le gouvernement indique que la distribution d'essence a été reprise en la rationnant après l'explosion et l'incendie à Conakry du principal dépôt de carburant du pays, un drame qui a fait au moins 23 morts. La population était privée d'essence sur l'ensemble du territoire depuis lundi de la semaine dernière, entraînant la paralysie d'une grande partie de l'économie. Des manifestations ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes réclamant le retour de l'essence dans les stations-service et les forces de l'ordre. Les Émirats arabes unis viennent de conclure les pourparlers sur un accord de partenariat économique global avec l'île Maurice, le premier du genre avec un pays africain. Le pacte ouvre la voie à l'accroissement des échanges commerciaux et des investissements, ainsi qu'à une coopération bilatérale entre les secteurs privés des deux pays.
Merci Jacques. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le Nigérian Victor Osimhen prolonge finalement à Naples.
L'attaquant nigérian, convoité par plusieurs clubs anglais, a finalement décidé de rester à Naples, le champion d'Italie en titre, où il a prolongé d'un an son contrat jusqu'en 2026. Le club du sud de l'Italie n'a donné aucun détail sur l'aspect financier du nouveau contrat du Nigérian, qui aura 25 ans le 29 décembre. Mais selon la presse italienne, il serait assorti d'une clause libératoire comprise entre 120 et 130 millions d'euros afin de protéger son joueur d'éventuels prédateurs de la Première Ligue notamment. La prolongation du contrat de Osimhen, élu le 11 décembre meilleur joueur africain de l'année 2023, était un sujet de préoccupation majeure des dirigeants des Naples depuis le titre de champion d'Italie décroché par Naples en juin dernier, le premier depuis 1990, Soler Maradona. Osimhen a inscrit 67 buts en 118 matchs avec Naples depuis son arrivée en 2020 en provenance du club français de Lille. Il a terminé meilleur buteur de la Serie A la saison dernière avec 26 réalisations. Cette saison, il a inscrit 7 buts en championnat.
À Londres, Radcliffe débarque enfin à Manchester United.
La famille Glazer a enfin vendu une partie de Manchester United au milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur du groupe pétrochimique Ineos, désireux de redonner son lustre d'antan au géant anglais, au palmarès défraîchi, a annoncé le club dimanche. Les propriétaires américains restent aux commandes, certes, mais la cession de 25% des parts à l'industriel de 71 ans représente un premier désengagement significatif depuis leur arrivée en 2005. Le patron d'Ineos, déjà propriétaire de l'OGC Nice en France, entre autres, a déboursé 1,25 milliard de livres pour entrer dans le capital, selon le communiqué du club. L'accord prévoit qu'Ineos aura la responsabilité de la gestion des affaires liées au football. Ratcliffe avait déclaré récemment qu'il voulait voir Manchester United, actuellement en difficulté sportive, retrouver la place qui est la sienne.
Luis Suarez rejoint Messi à l'Inter Miami.
L'Uruguayen Luis Suarez a signé un contrat d'un an en faveur de l'Inter Miami où il va retrouver son ancien coéquipier au FC Barcelone, Lionel Messi, lors de la saison 2024 du championnat nord-américain MLS. Messi et Suarez, tous deux âgés de 36 ans, ont évolué ensemble au Barça de 2014 à 2020, remportant 4 titres nationaux et une Ligue des Champions. Outre Messi, l'Inter Miami a attiré les ex-coéquipiers de l'Uruguayen au Barça, Jordi Alba et Sergio Busquets.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, les autorités de la transition ont décidé de suspendre toute coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Une décision qui fait suite à la suspension du pays par le Conseil permanent de la francophonie, des instances de la francophonie. Comment les citoyens réagissent-ils à cette décision? Suivons à ce propos le reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Pour ces deux habitants de la ville de Gaya, située dans le sud-ouest du pays, la décision des autorités de transition est à saluer. Ali Kariyo et Moussa Ibra.
Nous sommes déjà tourner vers un nouveau paradigme de reconquête de notre souveraineté. Et tous les liens que nous avons avec les colons, nous sommes en train de les défaire un après un. Donc en fait, c'était déjà dans le pipeline de nos autorités, puisque globalement nous avons décidé de rompre avec la France et de tout ce qu'elle a comme appendice en termes d'organisation dans lesquelles nous sommes partie prenante. Donc c'est une décision de souveraineté, elle est à saluer.
Ils ont même pris du temps, nous, tant que citoyens, nous pouvons dire même qu'ils ont pris trop du temps. Une organisation qui a été créée même au Niger, c'est même une insulte à l'égard à notre pays.
Souley Oumarou est le président du Forum pour une citoyenneté responsable. Il estime que la junte doit plutôt qu'isoler le Niger sur la scène internationale à travers de tels actes, s'inscrire dans une logique plus constructive.
À lieu et place de cette attitude va-t-en-guerre de tirer sur tous ceux qui bougent, la junte fera mieux de se consacrer vraiment à l'élaboration d'un calendrier de transition et de préparation du pays vers des nouvelles bases, vers des bases beaucoup plus conciliantes entre les Nigériens, vers une solution, n'est-ce pas, des problèmes actuels. Mais vouloir engager, je dirais, une attitude belliqueuse avec toutes les autorités pour un pays, aujourd'hui, comme vous le savez, et qui parle de souveraineté, mais qui n'a pas encore les moyens de cette souveraineté, je pense bien que c'est inquiétant.
Pour le journaliste Gary Amadou, la décision a au moins le mérite de n'être pas allée jusqu'au retrait du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie.
C'est une réaction de réponse à la décision de l'OIF. C'est tout à fait normal aussi que la même façon que l'OIF a annoncé la suspension du Niger, que le CNSP aussi annonce la suspension du Niger, sauf que c'est l'OIF qui a suspendu, donc de fait, la suspension est effective. Mais le plus important, c'est, je pense, dans ces deux décisions, c'est que on ne parle que de suspension. Et donc, même le communiqué du CNSP parle justement de suspension du Niger des activités de l'OIF, ce qui veut dire concrètement que la porte est ouverte pour le retour à la normale entre les deux institutions. Un retour à la normale qui, à mon avis, devrait se faire lorsque un chronogramme, en tout cas pour le retour à l'ordre constitutionnel normal, sera établi et lorsque la communauté internationale constatera que la junte a pris acte, en tout cas des exigences de la communauté internationale.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, l'éducation, la santé et la sécurité seront les grandes priorités du gouvernement en 2024. Traduites dans le budget national estimé à plus de 2000 milliards de francs CFA, le secteur social à lui seul représente la moitié des prévisions. Lors des discussions à l'Assemblée nationale, des voix se sont élevées pour que d'autres secteurs bénéficient de plus d'attention de la part du gouvernement. De Lomé Kossi Ousso.
venu solliciter le vote du budget exercice 2024 estimé à 2179,1 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale, Sani Yaya, le ministre de l'Économie et des Finances, a révélé les secteurs prioritaires où le gouvernement compte agir pour améliorer la vie des Togolais.
En 2024, un montant de 669,2 milliards de francs CFA sera consacré aux secteurs sociaux. En outre, il prend surtout en compte les défis sécuritaires, notamment l'équipement et les dotations des dépenses de fonctionnement des forces de défense et de sécurité afin de leur donner les moyens appropriés pour la protection de notre pays.
Sidi Ritama, président du groupe parlementaire Net PDP, apprécie le volet social du programme du gouvernement. Il souhaite un investissement plus important dans l'entrepreneuriat des jeunes.
Notre jeunesse, confrontée à la dure réalité de l'étroitesse du marché du travail, est aujourd'hui focalisée, parfois par fatalisme, vers l'entrepreneuriat, mais les barrières qui se dressent devant eux sont nombreuses. Je citerai le difficile accès au crédit, les formations insuffisantes et l'absence de débouchés commerciaux.
Comme Yagbanou de l'Union des Forces de Changement, principal parti de l'opposition, prend le parti des agriculteurs, laissé, selon lui, à la merci des structures organisées qui fixent le prix des produits agricoles au détriment des paysans.
Cette situation soulève un questionnement. À qui profite réellement le travail de l'agriculteur? Pas forcément le paysan. En tout cas, le prix du soja de 300 francs le kilogramme à la précédente campagne est revu à la baisse de 30%, soit 200 francs devant une inflation nationale de 5%. L'accompagnement de l'État est donc plus que nécessaire, afin que le pauvre paysan qui cultive la terre de nos aïeux puisse jouir de son travail.
Pour pouvoir disposer de ressources pour répondre aux préoccupations de la population, les autorités vont élargir l'assiette des impôts et taxes. Djossou Semondi, économiste et parlementaire, a travaillé sur le projet du budget.
Sur ce point particulier, des dispositions sont proposées, notamment le retour au taux normal de la TVA à 18% sur les hôtels, la limitation du champ d'application de l'exonération sur la taxe foncière, le rehaussement des droits d'assise sur les boissons alcoolisées, etc.
Selon Djossou Semondi, la taxation de 5% des gains des jeux de hasard proposée par le gouvernement a été rejetée par les députés à cause des remous déjà observés dans l'opinion publique et sur les réseaux sociaux. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Alors que les villes du Rwanda ont du mal à bien gérer les déchets ménagers, les jeunes de la ville de Butare, dans le sud du pays, se sont engagés à traiter ces déchets ménagers pour mieux protéger l'environnement. Ils estiment que tout le monde devrait se sentir concerné par la sauvegarde de l'environnement. Notre correspondant Jean Damasène Manichimwe est allé à la rencontre de ces jeunes.
Ils sont des dizaines de jeunes, membres de l'association Green Kea, qui traitent les déchets ménagers qui viennent de partout dans la ville d'Ourouye, située à 130 km de Kigali, la capitale. Alain Christian Ruzindana nous explique comment débuter cette opération.
Quand les déchets arrivent aussi ici, on sépare les déchets, ceux qui sont organiques, les déchets organiques et les déchets inorganiques. Les déchets organiques sont mis en andais pour le compostage. Et au bout de 60 jours, on est prêt à produire un compost qui est mis en sac et vendu. Et puis les déchets inorganiques, on sépare aussi les plastiques à part, les métaux à part, les cartons et autres choses à part. Et on les compacte et on les vend aux autres industries qui traitent et qui recyclent les déchets.
Débuté en 2016, ce projet des jeunes d'Ourouye a déjà profité aux agriculteurs qui se réjouissent d'un meilleur rendement agricole grâce à l'utilisation de l'engrais organique produit par cette association des jeunes.
Hano, quand on va dire il faut embêler,
ici on nous donne de l'engrais organique de qualité. Après l'avoir utilisé, notre production agricole a sensiblement augmenté. Nous acheminons une grande production au marché.
La création de cette association de traitement de déchets réjouit aussi de façon particulière les jeunes de la ville de Houyé. Environ 50 d'entre eux ont trouvé de l'emploi et leur vie s'est améliorée. Félix Naokuli Diayo est l'un d'eux. Avec ce travail, je me suis développé. Avant de venir ici, j'étais chômeur. Je ne faisais rien, mais aujourd'hui, j'ai pu acheter du bétail. Je couvre aisément tous mes besoins et ceux de ma famille. L'impact de ce travail des jeunes de Houyé a dépassé cette localité, puisqu'il a aussi eu un impact sur l'environnement de façon globale. C'est ce qu'explique l'initiateur de ce projet.
Je pense que la première chose comme impact qu'on a eu, c'est sur la communauté environnante. Maintenant, les déchets sont mieux traités, il n'y a pas de problème d'hygiène, il n'y a pas de mauvaises odeurs qu'il y avait. Et on le fait d'une manière qu'on protège les sources d'eau. Il y avait ce problème aussi. Et les déchets ne sont plus brûlés. Donc on a eu l'impact sur l'hygiène, cet endroit, mais aussi la réduction des gaz à effet de serre qui étaient produits.
Avec ce projet, les jeunes de Houyé au sud du Rwanda ont voulu donner notre message. La protection de l'environnement incombe à tout un chacun et pense qu'aucune initiative, si petite soit-elle, ne doit être négligée. Jean Damasen Manichimé pour VOA Afrique, Kigali.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les attaques attribuées aux colons juifs contre les Palestiniens se sont multipliées selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Dans le sud de la Cisjordanie, plus d'une dizaine de villages ont été détruits, des agriculteurs ont été expulsés de leurs terres et plus d'un millier de personnes ont été déplacées. Sur place, le reportage de Yann Bochat de la VOA. Le récit est de Jacques Aristide.
Deux familles palestiniennes de la communauté d'éleveurs d'Elma Fagara affirment avoir tout perdu quand un jour, des colons juifs vivant à proximité sont arrivés avec des fusils, des camions et un bulldozer pour tout raser en quelques minutes, selon elles. Mahmoud Amamdé est le chef de cette communauté.
La première attaque a été menée contre ces maisons. Les colons sont venus habillés en militaire et ont commencé à tout attaquer et à tout détruire. Nous n'avons jamais vu ce genre de choses de la part des soldats. Avant, nous recevions une lettre d'avertissement. Mais cette fois, les colons sont simplement arrivés en vêtements de soldats et ont tout détruit.
Amamdé dit que sa famille vit dans les collines d'Hébron depuis des siècles, élevant des moutons et des vaches et cultivant des oliviers. Les colonies, ajoute-t-il, se rapprochent de plus en plus et depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, Amamdé est d'avis que les choses sont hors de contrôle au vu des menaces et des violences.
Je me sens humilié, insulté, étouffé, si maltraité, non pas par les Juifs, parce que les Juifs, ce sont de bonnes personnes, mais par ces sionistes qui viennent de partout dans le monde, qui ne connaissent ni religion, ni éthique.
D'après l'OCHA, l'agence onusienne des affaires humanitaires, au moins 15 villages ont été détruits depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier et plus d'un millier de personnes ont été déplacées. Le service de presse du gouvernement israélien et les forces de défense israéliennes n'ont pas réagi au nombre croissant d'attaques de colons juifs contre des agriculteurs palestiniens. Au cours de ces dernières semaines, le gouvernement israélien a commencé à distribuer des milliers de fusils et d'armes de poing aux civils vivant dans les zones frontalières et dans les colonies de Cisjordanie. Itamar Ben-Gvir est le ministre de la Sécurité nationale d'Israël.
Nous allons d'un endroit à l'autre distribuant ces armes à feu. Cela sauve des vies. Chaque fusil, chaque pistolet que nous remettons avec la délivrance de permis peut sauver une famille. Chaque arme à feu, chaque fusil d'assaut peut sauver un immeuble résidentiel. Je dis aux citoyens d'Israël, armez-vous.
Ces villageois disent qu'avant la guerre, ils appelaient la police israélienne pour résoudre tous les problèmes qu'ils avaient avec les colons voisins. Mais maintenant, ajoutent-ils, plus personne ne vient les aider.
Voilà pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages X, l'ex Twitter, Facebook et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.